du fonctionnement des institutions européennes et qui démontre ce que certains disent depuis très longtemps, mais qu'on accuse d'être des anti-européens primaires. Ils expliquent, les juges, pourquoi ce fonctionnement n'est pas démocratique. Et en particulier, les juges disent que le Parlement européen n'a de Parlement que le nom, étant donné qu'il n'y a pas notamment de peuple européen, et que le Parlement européen n'est pas en mesure, de par son fonctionnement et son mode d'élection, de représenter valablement les peuples européens, et que pour l'instant, le lieu normal de la démocratie, ça reste le cadre national. Que par conséquent, il faut que le gouvernement allemand et le Parlement allemand puissent conserver tous les moyens de contrôle sur les évolutions institutionnelles futures de l'Europe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça valide juridiquement une critique grave, l'absence de démocratie dans l'Union européenne. Et d'autre part, ça montre...
On s'en était un petit peu aperçu.
Oui, on le disait...
Mais là, ça prend un caractère.
Voilà, on nous disait, c'est des arguments de tribune, vous êtes des anti-européens primaires, etc. Là, on a des gens qui sont des juges très sérieux qui font une analyse pointue de ce phénomène, qui est grave parce que ils ont été interrogés sur le traité de Lisbonne et ils disent le traité de Lisbonne prévoit des accroissements de compétences certains de l'Union européenne et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de contrôle démocratique. Et cet arrêt, il vient un petit peu jeter une lumière crue sur ce qui a été fait dans les autres pays, notamment en France, que nous, notre Conseil constitutionnel n'a rien dit. Ça jette une lumière crue, d'une manière générale, sur la légitimité démocratique de la construction européenne. Parce qu'on a vu que les derniers traités étaient adoptés par des parlements, qu'on faisait de moins en moins appel au référendum. Donc c'est intéressant de voir que la construction européenne est... mise en accusation, mais disons interrogée sur ses fondements, sur ses fondements démocratiques.
On continue avec le diplôme de septembre. Et là, c'est un papier, un article de Daniel Linhart. Alors, on ne sait jamais s'il faut dire Linhart ou Linhart, mais on peut dire les deux. Vous m'avez dit. D'accord, on peut dire les deux. Et c'est sur le travail. Et c'est passionnant, ce papier, parce que ça tourne autour du public et du privé. Et actuellement, ce que vous observez, ce que tout le monde observe, c'est que dans le secteur public, on nous dit qu'il faut l'efficacité, la rentabilité, les performances du privé. Et dans le privé, on dit aux gens, oui, mais il faut des valeurs d'investissement, de dévouement, etc. Il y a un chassé-croisé comme ça entre ces deux mondes.
Oui, je trouve ça assez frappant. Et je dois dire que je trouve ça très préoccupant d'un point de vue sociologique, parce qu'il y a deux choses qui sont préoccupantes. La première, c'est le dénigrement systématique dont souffrent en France, en tout cas me semble-t-il, les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de valorisation par le français moyen du service public en tant que tel, mais une dévalorisation, il y a un dénigrement du fonctionnaire qui serait un privilégié, quelqu'un qui aurait cette chance incroyable de pouvoir bénéficier de la sécurité de l'emploi dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus insécure. Donc il y a une sorte de haro sur les fonctionnaires, sur leurs privilèges, au moment même où ils sont aussi attaqués dans leur éthos professionnel, dans leur éthique. C'est-à-dire que quand on fait les enquêtes dans le monde du secteur public, on est frappé par la capacité à trouver de la noblesse et de la beauté dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont au service du service public. C'est-à-dire qu'ils ne s'estiment pas au service de leur employeur, même l'État ou leur institution, mais ils s'estiment véritablement travailler pour la nation, pour le bien commun, pour l'intérêt général. En tout cas, au service de valeurs qui leur semblent très très importantes. Et parmi ces valeurs, il y a celle de l'égalité de tous les usagers, il y a celle de la continuité du service, et puis il y a celle, évidemment, de l'intérêt général, de l'intérêt commun. Et ce que l'on observe aussi, c'est qu'avec la modernisation du service public, avec l'entrée des valeurs du privé, on voit comment s'effrite considérablement cette éthique professionnelle, et on voit la souffrance que ça génère auprès des agents. Ils ne sont plus en mesure de faire véritablement le boulot pour lequel ils s'étaient engagés, pour lequel ils s'investissent. On leur demande...
Et tout ça, ça se déroule sur les 30 dernières années.
Oui, je dirais depuis 25. 81. Oui, depuis 81, absolument. On leur demande de considérer qu'ils n'ont plus affaire à des usagers, mais à des clients. On leur demande de faire une distinction entre les gros comptes et les particuliers. On leur demande d'accepter qu'il y ait des intérimaires auprès d'eux ou des gens en contrat à durée déterminée. On leur demande de faire du commercial, c'est-à-dire qu'on...
Vous pensez à quel secteur, la poste, le...
La Poste, EDF, la SNCF, il y a aussi un très très un bon exemple, je dirais douloureux, c'est celui de France Télécom, où on voit se multiplier les suicides. C'est des gens qui sont attaqués à la fois dans leur métier